Bonjour, Copocast.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans cet épisode 12, j'ai la joie d'accueillir Amandine, maman de deux enfants, doula, moon mover et bien plus encore. Elle vient nous raconter ses enfantements. L'un a eu lieu dans un pays où la culture diffère, en Russie. La maman y est notamment choyée dans son post-partum. L'autre est une naissance plaisir. Amandine nous conte comment elle s'est préparée à vivre cette expérience forte. Aviez-vous déjà entendu parler des naissances orgasmiques? La sexualisation des naissances est une chose dont on parle peu, et pourtant, ça peut sembler si naturel et ouvrir bien des horizons. Je vous souhaite une belle écoute.
Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Amandine, plus connue sous le nom du coup de Ama Saoul. Et c'est un plaisir pour moi de recueillir ton témoignage ici.
Merci de l'accueil.
Est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu du coup et puis nous raconter un peu ton parcours?
Yes, donc je m'appelle Amandine, j'ai deux enfants, Alicia qui va avoir 8 ans et Ilia qui va avoir 3 ans. Et j'ai habité 6 ans en Russie, donc j'ai passé ma première grossesse et mon premier enfantement en Russie. Et moi je suis de Bretagne d'origine. Et là je suis revenue en Bretagne depuis à peu près 2 ans. Je donne des cours de yoga, prénatal, postnatal, aussi yoga... santé des femmes, tout ce qui est cette région pelvienne, de l'utérus, en prise de conscience de son périnée, etc. Je suis aussi doula, donc j'accompagne les mamans avant la grossesse, après la grossesse, pendant l'enfantement. Et je suis aussi moon mother, donc je donne des soins énergétiques féminins au niveau de l'utérus aussi. Donc voilà à peu près.
Une belle palette. Super. Et du coup, est-ce que tu as vécu une expérience particulière par rapport à la maternité? Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu?
Oui, ouais. Donc en fait, j'ai plutôt parlé de mes deux enfantements qui sont vraiment différents. Mais pour les deux, j'avais vraiment envie de vivre une naissance naturelle, donc sans péridurale, sans intervention. En fait, j'ai vraiment envie de laisser mon corps... à s'ouvrir naturellement et ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Et donc, comme je l'ai dit, mon premier enfantement, c'était en Russie. Et en fait, là-bas, j'étais dilatée à 4, je suis arrivée à l'hôpital. Parce que là-bas, en fait, je voulais vraiment faire un enfantement à domicile, mais personne, il n'y avait aucune sage-femme qui le faisait. Donc, j'étais obligée. Soit je faisais un nana, mais c'était sinon dans la maison de mes grands-parents. Donc, non, pas de mes grands-parents, de mes beaux-parents. D'accord. Donc, c'était même pas envisageable, en fait.
Parce que le suivi avait était peut-être un peu similaire du suivi qu'il peut y avoir généralement en France.
Était un peu plus poussé. Okay. Je sentais qu'il y avait beaucoup de peur, en fait. Par exemple, on m'avait dit que j'avais pris trop de poids, alors que finalement, j'ai pris 10 kilos pendant... c'est pas énorme. Donc il y avait beaucoup de ah oui là vous avez pris trop de poids, enfin il y avait beaucoup de questions qui étaient un peu anxiogènes quand même. D'accord. Et aussi, là-bas, en fait, c'est pas sur rendez-vous. Donc, par exemple, lorsqu'on a tous nos rendez-vous, mois par mois de grossesse, on arrive à l'hôpital et c'est la première arrivée, première servie.
Ah oui.
Et fois, on attendait 2-3 heures pour 5 minutes d'écouter le cœur du bébé et prise de sang, quoi. Donc, c'était les conditions sont pas les mêmes. Et une semaine avant d'enfanter, j'ai ma mère qui est arrivée et j'avais un rendez-vous, le dernier rendez-vous. Et la femme, la sage-femme me dit « Oh là là, mais normalement vous devriez accoucher, vous êtes déjà dans votre date de due date, je ne sais pas comment
c'est. » La terme, oui, ils appellent ça la date probable, mais c'est vrai que maintenant c'est plutôt une période quand même.
Et elle me dit, bon, bah, du coup, vous allez rester ici jusqu'à ce que vous vous enfantez. Je fais, mais non. C'est pas possible. Moi, j'ai ma maman qui vient d'arriver. Je sentais bien qu'il me restait encore du temps avant d'enfanter. Et j'avais envie de marcher, d'être en pleine nature. J'ai sûrement pas envie de rester dans une chambre où on est une quinzaine de femmes à attendre. Donc, donc j'ai dû signer une décharge, vraiment ils n'étaient pas contents et finalement j'ai bien fait parce que j'ai commencé à avoir les premières contractions une semaine après exactement. Donc je suis arrêtée une semaine à l'hôpital, je ne peux pas imaginer quoi.
Non, en effet.
Et donc,
Oui, elle non plus elle n'imagine pas.
Et donc... Et vers 16h déjà, j'avais des contractions toutes les 5 minutes. Puis j'ai commencé à cuisiner, là, j'avais envie de faire des gâteaux, lalala, je dansais. Et à 21h, c'est ma famille qui m'a dit, bon allez, ça serait peut-être bien d'y aller, là. Moi, j'avais pas vraiment envie d'y aller, c'était la pleine lune d'ailleurs. Et donc j'y vais, j'étais ouverte à 4. Et je reste dans... ça faisait... je sais pas, une ou deux heures que j'étais dans la salle de naissance. Et en fait, j'avais peu avancé. Et donc là, ils ont commencé à me pousser pour que je prenne l'ocytocine de synthèse. Et moi, je ne voulais vraiment pas. Mais ils ont poussé, nanana, c'était mon premier enfant. Je n'étais pas encore vraiment aussi confiante, en fait. Et j'appelle ma mère et je lui dis, oui, ils veulent me mettre l'ocytocine, j'ai pas envie, nanana. Et puis ma mère me dit, tu sais, moi aussi, pour mes deux enfantements, je l'ai eu. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être quelque chose de famille, en fait.
Ah oui.
C'est un peu mon petit raisonnement. Et c'est après, en fait, que j'ai su que c'était très, très courant et que c'était plutôt pour les équipes, pour que ça soit plus rapide, etc., pour leur emploi du temps, quoi. Donc, je ne savais pas. Donc, on me donne l'ocytocine, on me perce la poche des os. Et là, pendant 2 heures, ça a été vraiment, vraiment rock'n'roll. En fait, les vagues sont arrivées d'un coup très, très fortes. J'avais du mal à surfer sur les vagues et on parlait en russe. Donc moi, j'avais mon mari qui était là, qui me traduisait. Alors, j'ai bien senti qu'il ne traduisait pas exactement pareil parce qu'elles sont un peu... brut de coffre, quoi. C'est un peu à l'ancienne. Et c'était très douloureux avec l'ocytocine de synthèse plus la poche des os qui a été percée. Et j'ai appris plus tard aussi que il y a certaines sages-femmes qui faisaient ça en fait pour les femmes qui voulaient pas de péridurale. Elle augmentait le taux d'ocytocine, elle perçait la poche des os pour que ça soit plus jouable et qu'elle prenne la péridurale. Donc ça, j'avais entendu après avoir fait des recherches. Donc après, là, c'était pas vraiment ça parce que là, elles ne l'ont pas proposé. Comme j'avais dit qu'en Russie, en fait, si tu dis que tu veux pas la péridurale, tu vas pas l'avoir, on va pas te la proposer. et finalement, il y a très peu de femmes qui prennent la péridurale. Par rapport à en France, on est à, je sais plus, 90-95%. En Russie, c'est plutôt le contraire. Il va y avoir peut-être 10% de péri seulement. Les femmes ont pris l'habitude de faire ça. Et donc je n'ai pas eu. C'était très, très intense. À la fin, on m'a demandé de me mettre sur le dos, les pieds dans les étriers. Et on m'a demandé de pousser. vraiment à l'ancienne, inspire, bloque, pousse. Et on m'engueulait parce que je ne faisais pas assez bien. Donc ça a duré une bonne demi-heure. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Et à la fin, j'ai vu de la lumière et elle est sortie. Donc c'était libération. Voilà, on l'a posé, là, tout s'est calmé. C'était très fort, très, très beau. Après le calme, après la tempête, le calme. Et il y a un détail, par contre, c'est qu'elle avait un petit peu, ma fille avait un peu écorché, en fait, au niveau des lèvres. Et donc, ils ont commencé à recoudre. Et, non, c'est pas ça. Non, elle voulait sortir le placenta.
Ah, ok.
Donc, elle voulait m'appuyer sur le ventre. Et là, j'avais qu'une envie, j'étais encore dans les étriers, j'avais envie de lui donner un coup de pied dans la tronche. Bon, j'ai pas fait, mais vraiment, c'était jusqu'au bout... On m'a pas laissé quoi, j'étais. Enfin bon, bref. Finalement. Là,
en fait, ils n'ont pas laissé de délai du tout, parce que c'est déjà que le protocole en France, il est très court. En général, ils parlent d'une demi-heure pour la délivrance du placenta. Mais là, directement, ils ont voulu qu'il puisse sortir.
Ah oui, oui, directement, c'était. Il n'y a pas eu de. Ouais, il n'y a pas eu de pause en fait. Je venais d'enfanter mon enfant et là, elle m'appuyait vraiment sur le ventre. Enfin, elle est allée la chercher. Limite, elle mettait la main pour chercher. C'était. Oh, laissez-moi, quoi. Bref. Ensuite, on m'a installée et puis là, voilà, l'allaitement a commencé. Là-bas, il y a un taux aussi d'allaitement qui est beaucoup plus élevé. Vraiment, toutes les femmes allaitent. C'est vraiment... J'ai rencontré une fois une femme qui allaitait pas, mais elle pouvait vraiment pas. En fait, elle avait... Donc, c'est vraiment sur les... voilà, sur les 5% des femmes qui peuvent vraiment pas allaiter, mais sinon, c'est... L'allaitement, il est vraiment considéré comme quelque chose de normal en fait, ouais. Tu enfants, tu allaites. Surtout quand jusque dans les années 2000, il n'y avait pratiquement rien dans les magasins.
Ah oui.
Pas de lait, ma belle-mère par exemple, il n'y avait pas de couche non plus. Donc des fois, elle allait acheter une couche à l'unité, à la pharmacie, pour dormir toute la nuit, pour ne pas avoir besoin de... Donc c'est voilà, le fait qu'il n'y ait pas eu aussi toute cette publicité sur le lait infantile que nous, on a eu dans France, eux, ils n'ont pas eu. Ouais. Donc, l'allaitement est vraiment jusqu'à 1 an, les femmes allaitent. Généralement, c'est 1 an. C'est la moyenne. Ouais. Donc, c'était une expérience intense, mais j'en suis ressortie plus forte, en fait. Même si je me suis ouverte à des niveaux... Voilà, déjà au niveau du col de l'utérus, du vagin, mais aussi au niveau de mes limites, de ce que je pensais pouvoir endurer en termes de douleur. Mmh. Et ça m'a rendue vraiment plus forte. Ensuite, j'étais plus la même, quoi. J'étais... Hein?
L'effet, quoi. Ouais.
Tu vois, c'était vraiment une épreuve initiatique. Vraiment, je l'ai ressentie comme ça, donc je ne regrette pas du tout. Donc ça, c'était la première expérience. Voilà, j'ai allaité pendant 2 ans. Ensuite, j'étais en Russie et j'ai eu un post-natal aussi de rêve en Russie. Les femmes sont... Il y a vraiment cette culture du prendre soin de la mère qui vient d'enfanter. Donc, j'ai mes grands-parents et pendant 1 mois, j'ai absolument rien fait. J'étais dans mon lit. On venait m'apporter mon petit déjeuner, mes repas au lit, ma belle-mère, j'avais ma belle-mère, ma mère et la grand-mère de mon mari
wow.
qui s'occupait du linge, du ménage, de tout. C'était vraiment donc l'allaitement était très facile aussi parce que j'étais reposée, j'avais rien d'autre à faire que d'allaiter mon bébé quoi. Donc ça c'est vraiment aussi une des particularités en Russie, un peu comme en Afrique ou en Amérique du Sud,
en Asie beaucoup aussi
en fait
complètement.
Ouais. Donc c'était vraiment chouette et ouais donc voilà pour
à ce point là c'est super, c'est vrai que mine de rien je pense d'autant plus pour une première expérience dans la maternité de pouvoir être chouchoutée comme ça devait être merveilleux quoi.
Ouais c'est vrai que c'était je pense que ça change vraiment tout en fait
et du coup devenir maman alors ça a été la transformation.
Ouais. Oui, c'est sûr. C'était il y a 8 ans déjà et ça a été une... Il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes, en fait, après la naissance. Et notamment, ma passion pour la grossesse et l'enfantement, c'est à partir de ce moment-là où je sentais que j'avais envie d'être, devenir doula. Enfin, je commençais à lire beaucoup. Et c'est là aussi où j'ai appris que voilà, l'ocytocine de synthèse était souvent donnée pour que ça soit plus facile, enfin plus rapide, non pas pour la maman, mais plutôt pour l'équipe médicale, comme ça, ils n'avaient pas besoin de rester la nuit. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est aussi après la naissance que je suis tombée sur le film La naissance orgasmique.
Okay.
Et là, j'ai fait, c'est ça que je veux pour le printemps, c'est ça. En fait, ça m'a semblé très logique qu'on puisse utiliser l'énergie de la conception, donc l'énergie de l'amour, la sensualité, la sexualité, et qu'on puisse utiliser cette énergie-là pour faire descendre notre bébé. Et que ça passe par le même canal, la même hormone est présente dans le corps. Et donc j'ai commencé à me passionner en fait pour cette naissance orgasmique qui résonnait en moi, et j'avais envie de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y a des femmes, enfin la majorité des femmes ont mal, et je l'avais ressenti moi aussi, donc et de l'autre côté, il y a des femmes qui clament et qui disent qu'elles ont des naissances orgasmiques, des naissances plaisir, quoi. Je me suis dit, c'est quoi en fait la différence entre ça, entre même ce qu'on nous dit, tu enfanteras dans la douleur. C'est quand même un programmage, un conditionnement direct depuis la religion, depuis la Bible. Et voilà, et ces naissances orgasmiques. Donc j'ai commencé à faire mon petit chemin. Et j'ai entrepris une formation de yoga prénatal en Russie.
Okay.
J'étais pas encore enceinte. Et j'avais la première session de formation en décembre, je crois, novembre. Et la deuxième, c'était en juin. Et j'avais rigolé avec les filles en disant, vous allez voir, ça va me donner envie. À la prochaine session, il se peut que je sois enceinte. Et ça n'a pas loupé, donc j'étais enceinte déjà de 6 mois pour la deuxième session. Et à la fin de notre formation de yoga prénatal, donc c'est une formation yoga prénatal, yoga postnatal et yoga santé des femmes. Donc tout ce qui touche la ménopause, la préconception, tous les cycles en fait de la femme. Et donc à la fin, on nous demandait de faire un mémoire sur un sujet qui nous touchait. Et avec lequel, voilà, on faisait le lien avec le yoga. Et tout de suite, j'ai choisi comme sujet la naissance plaisir. Okay. En fait, je me suis dit, ça va me motiver. En plus, j'étais enceinte. Et donc là, c'est là où j'ai fait tout un mémoire avec plein de... toutes mes recherches, en fait, sur déjà la compréhension de cette naissance plaisir, en fait. Qu'est-ce qui va faire qu'on va l'inviter, qu'on va s'ouvrir aussi au plaisir pendant la naissance, et aussi quelle posture, voilà, j'ai assez holistique comme mémoire, avec posture de yoga, méditation, hypnonaissance aussi, enfin beaucoup de choses. Et donc bien sûr, comme j'étais enceinte, bah, j'ai tout testé. C'est vraiment un chemin où tous les jours, voilà, ça dépendait. Des fois, je me prenais 15 minutes, des fois un peu plus. Mais je pratiquais en fait tout ce que j'avais trouvé à droite à gauche, avec des affirmations positives. J'enfante dans le plaisir, j'enfante dans le plaisir. Tous les jours, j'ai une naissance orgasmique. Je me suis vraiment lavé le cerveau. ouais, j'ai vraiment. C'est vraiment un lavage de cerveau, en fait, essayer de tout oublier, déjà par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ma propre expérience qui avait été très douloureuse, et aussi au niveau de ce que j'avais appris. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de la douleur de la naissance, j'avais 8 ans, et c'est ma belle-mère, donc la femme de mon père, qui m'avait dit « Tu vas voir, la pire douleur de ta vie, ça sera quand tu vas enfanter tes enfants. »
Ah oui, ça marque.
Alors, ça, c'est en conditionnement. Ça, ce genre de phrase, ça vient se mettre directement dans le subconscient.
Complètement, oui.
Bah, forcément, lorsqu'on arrive dans cette situation, notre cerveau pioche. Ah oui, information, douleur. Bon, bah, vas-y, on va. C'est ce que le corps doit ressentir. Donc, on va offrir cette expérience à notre corps.
Mais du coup, donc, tu t'es déprogrammé tout ça et tu as fait ta nouvelle réalité. Il n'y avait plus qu'une seule place, c'était la naissance orgasmique au final.
Ouais. Ah. Mmh. Mais toujours quand même en restant dans l'acceptation, en fait. J'avais quand même cette... comment on dit, c'est le mot, c'est... je trouve plus le mot, mais cette clarté que oui, je vise la lune. Je vise une naissance orgasmique, mais j'accepte, je sais que toutes les naissances peuvent être différentes et que tout peut arriver. Donc, j'accepte, je me mets dans ce positionnement quand même de tout accepter. Si je vise la lune, c'est pas grave, j'atterris quand même dans les étoiles, j'aurai quand même mon bébé. Enfin, voilà, c'était quand même un but, parce que j'avais envie de changer mon expérience, j'avais pas envie de revivre... cette douleur, j'avais vraiment envie d'aller dans cette direction, oui. Vers la plaisir. Mais j'acceptais. J'étais, ok, si ça se passe pas comme ça, bah, c'est pas grave. Mm-hmm. C'est très important aussi de rester dans l'acceptation. Et donc, j'avais prévu un enfantement à la naissance, à la maison. le truc, c'est que j'étais en dépassement de terme. Et donc, la sage-femme pouvait garder... pouvais garder la naissance à la maison seulement si j'étais à 41 plus 5. Si j'étais à 41 plus 6, c'était hôpital. 41 plus 5, soir, ça commence. Ah yes, yes, j'étais contente. Je vais chez la voisine, on mange des moules frites. Et je sens que ça commence à... Ouais, ça commence à s'intensifier, etc. Donc... je suis contente, je prépare mes bâches, mes seaux, mes bougies, mes petites guirlandes. Puis je me dis, bon, il est 22h, je vais me coucher. Comme ça, quand vraiment la fête va commencer, je serai en forme, quoi. Je me couche, je me réveille le lendemain matin à 9h comme une fleur.
Aïe.
Ça s'est arrêté, en fait. Mon corps s'est dit, hop, là, c'est... Mon corps, en fait, a tout arrêté alors que ça avait déjà bien commencé, quoi. Donc, j'étais un peu déçue parce que ça voulait dire que je devais aller à l'hôpital. Mais je restais positive. Voilà, je me disais, c'est la vie, quoi, tant pis. Et je m'étais bien reposée, du coup, donc c'est bien aussi. Et en fait, l'hôpital, la maternité, m'avait demandé de venir donc, ce jour-là à 8h du mat, si j'avais toujours pas eu de naissance, pour le déclenchement, en fait.
Ok.
Parce que là, on me disait à 41 plus 6, le déclenchement est obligatoire, alors qu'ils voulaient me déclencher déjà 3 jours avant, 41 plus 3. Mais j'ai fait non, 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 non. La sage-femme voilà, me pressait. Finalement, ils ont appelé le médecin en chef qui est venu, donc un vieux bonhomme. Il nous est sûr, non, 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 j'ai pas envie. Donc après, je devais venir tous les jours. Faire une écho, enfin pour voir s'il y avait assez de liquide, nanana. Bon,
savoir
si élève d'aller tous les jours, ouais. Bon, parce que je me sentais bien et je sentais que tout allait bien, donc et donc finalement j'arrive pas à 8h du mat parce que je suis enceinte, j'ai besoin de dormir, je vais pas me réguler aux emplois du temps des autres, c'est mon expérience qui est importante, en fait, donc j'y vais à midi. Et finalement, j'étais contente parce que la salle, on avait visité quand même la salle nature. Il y avait une énorme baie vitrée qui donnait sur une forêt, quoi.
Okay.
Super, ça c'était cool. Et donc la sage-femme arrive et tout, et puis elle me dit, bon, je peux vous proposer soit le déclenchement, soit le décollement des membranes, soit vous repartez, mais après vous êtes obligé de revenir de toute façon demain, quoi. Je fais bon, ok pour le
décollement.
Okay. Parce que c'était la période, le décollement de membrane, c'était la méthode la plus naturelle, entre guillemets, plutôt que de mettre des oxytocines. Donc elle y va, et puis je commence à sentir des sensations, je respire, et elle me fait, ne vous inquiétez pas, c'est bon, ça va s'arrêter bientôt, quoi. Je fais non, mais en fait, ça va, ça fait pas vraiment mal. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait. Ce sentiment cette sensation au niveau du col, c'est ça en fait que je vais ressentir plus tard, et je sentais déjà que c'était plus douloureux. C'était pas, c'était des sensations même agréables en fait. Donc je me suis dit, bon, finalement, là, je vais peut-être dans la direction de la naissance plaisir. Et donc, elle me demande d'aller manger légèrement. J'ai mangé un gros bagel au mousse et je reviens. Et là, je sentais que ça commençait, ça avait fonctionné. Et elle me fait, ah, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Je vois bien, vous êtes trop souriante.
Et toi, tu sentais que si, ça avait bien fonctionné.
Oui, moi, je sentais que ça. Je me dis, si, ça a bien fonctionné, ne vous inquiétez pas. Donc, elle vérifie quand même et puis elle décide de refaire encore.
Ouais.
Donc, finalement, elle écorche un peu la poche des os. Je sais qu'elle n'a pas fait exprès. Moi, j'avais un bon feeling avec cette sage-femme. J'avais espéré que ce soit elle. Je l'avais rencontrée quelques jours avant pour un monito et j'avais bien aimé sa vibe. Donc, et là, ça avait commencé. Et je lui dis, par contre, je vais aller faire un tour dans la forêt. Et là, normalement, en fait, à partir du moment où il y a une intervention, et le décollement des membranes, c'est une intervention, ils n'ont plus trop le droit. Mais elle sentait bien que j'étais vraiment dans ma phase femme louve, femme sauvage, et que de toute façon, si elle m'interdisait d'aller dans la forêt, j'allais quand même y aller, quoi. C'était...
Ouais. Et puis, elle n'avait pas l'air totalement convaincue non plus. Donc, peut-être qu'elle n'était pas totalement convaincue non plus. Donc, si elle se disait, bon, je lui laisse encore un peu de temps.
Oui, voilà, ouais.
En tout cas, c'était chouette.
Ouais. Par contre, elle m'a quand même fait promettre de ne pas accoucher dans la forêt.
C'est bon.
Donc ça commence, je commence à marcher, je commence à faire une technique de la marche de naissance que j'avais appris pendant ma formation et que vraiment pendant la formation je voyais pas l'intérêt de cette mais là quand j'ai commencé, ah ouais, j'ai vraiment en fait dès que j'ai commencé à faire ce mouvement, je vais vous le faire. En fait, c'est, on a un pied devant, un pied derrière et on fait 1 2 3 et on balance le pied et on marche comme ça en fait.
D'accord.
On balance 1, 2, 3 et on balance. Ah oui, je sais pas, ça va être un audio.
Ça sera que l'audio, mais tu pourras nous mettre, si tu peux nous mettre une petite vidéo, je mettrai le lien.
Oui, d'accord. et tout de suite en fait, les sensations d'ouverture au niveau du col étaient vraiment similaires à lorsqu'on a un rapport sexuel vraiment au niveau du col où on sent donc notre partenaire vraiment bien profondément, quoi. C'était vraiment ce genre de sensation. Donc j'ai continué à marcher comme ça et à un moment donné on passe devant un terrain de rugby. Okay. Je me dis non, faut peut-être que je marche normalement, et à partir du moment où j'ai marché normalement, ah, ça faisait mal là.
Ah, ouais. Okay.
Donc voilà, je me suis retrouvée dans la forêt et là j'ai commencé vraiment à bouger, à me balancer aux arbres, je trouvais les branches, je balançais mon bassin et ça me faisait vraiment du bien, quoi. Ça soulageait, ça devenait déjà une sensation orgasmique en fait, vraiment similaire aux sensations en fait, ce qu'on appelle les orgasmes du col de l'utérus en fait. Et donc à un moment donné, je sens que j'ai envie de me mettre à quatre pattes, je me mets. Et là, je fais, oh, j'accoucherai bien, enfin, j'accoucherai bien juste ici, en fait, quoi, dans l'herbe, mais je me suis souvenue. Donc, du coup, on retourne dans la chambre. Et là, je fais vraiment de la chambre, je commence à m'installer dans la chambre et à faire que la chambre soit mienne, en fait. Donc, je mets des bougies. Le truc, normalement, on n'a pas le droit de mettre des bougies, on peut mettre les bougies à l'aide, mais moi, je ne savais pas, j'ai mis des bougies à la fenêtre. On met de la musique, on a commencé avec Jack Johnson.
Ok.
C'est sympa, hop. Donc, j'ai commencé à faire ma petite fête, en fait. Je dansais, j'ai dansé tout le long. La sage-femme, elle regardait, hop, elle repartait.
Très bien, quand c'est comme ça, ouais.
J'ai mis mon pareo préféré, enfin, voilà, j'étais... une petite fête tranquille, il y a le coucher du soleil qui commençait à tomber sur la forêt, donc c'était vraiment chouette. Et après, ça commence à s'intensifier, on change de musique, on met Ben Harper, qui est un peu plus... et là, je commençais à vraiment utiliser les lianes, à faire des grands mouvements, à un peu une danse très... tribal, sexy, je ne sais pas trop. Vraiment en essayant de bouger mon bassin et aussi à faire des bruits. J'étais vraiment dans l'intériorité à ce moment-là. Et toujours ces sensations puissantes mais agréables en fait au niveau du col. Et ça me fait penser que aussi pendant la grossesse, je me suis préparée à aller explorer ces sensations au niveau du col. Mmh. En fait, technique qu'on appelle la réflexologie vaginale, où tout simplement en faisant l'amour naturellement, en fait, les parois du vagin et au niveau du col sont massées avec le partenaire. Et parfois, en fait, on ressent pendant qu'on fait l'amour, on ressent comme une tension ou une douleur. Donc là-bas, aïe, aïe, aïe. Et généralement, bah, notre instinct, enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on dit bon, bah, va plutôt un petit peu plus à gauche, comme ça, ça va pas toucher la zone douloureuse. Et là, en fait, ce que je faisais, c'est que au contraire, j'allais explorer cette zone. Et comme en réflexologie du pied, lorsqu'on a une zone qui est un peu douloureuse, bah, justement, on va la masser, on va faire une pression circulaire pour masser. Et comme au niveau du pied, et bien dans le vagin, au début, on respire vraiment avec la respiration vraiment pour aider à relaxer cette zone. Et ensuite, la zone va être relaxée et la tension va faire place au plaisir. Donc déjà, pendant la grossesse, j'allais vraiment, on allait explorer. Des fois, je disais, ok, stop. Et je respirais, j'allais masser la zone. Et donc, je pense que ça m'a aussi vraiment aidée à embrasser aussi ces sensations intenses au niveau du col. Parce que c'est exactement ça ce qui se passe. C'est vraiment le col qui travaille pendant la naissance. Donc, justement, aller explorer les zones du col avant l'enfantement. Donc, Ben Harper, nanana, et à un moment donné, la sage-femme arrive et me dit, bon, ça serait bien quand même qu'on... c'était à peu près 2 heures après notre balade. Ça serait bien qu'on mette un peu le monitoring pour vérifier. Je suis bon, d'accord, mais voilà, si le truc il jarcle, hein, je vais pas me prendre la tête à essayer de le remettre, non, j'ai autre chose à faire. C'était marrant parce que les vagues arrivaient, j'étais complètement dans ma vague, et dès que la vague partait, hop, je pouvais parler comme maintenant.
Complètement, ouais.
Ouais.
Ça m'a vraiment marqué lors de mon dernier enfantement aussi, te dire, bon, allez, j'en étais où déjà?
Oui. Yes. Et donc elle me met, et 5 minutes après, j'ai la première contraction de poussée et qui littéralement me projette sur le lit à quatre pattes. Et puis bah, le monito, il fait pas de oui. Et là, ah ouais, là je sentais vraiment cet instinct de pousser. Et la sage-femme était très, très surprise parce que pendant un moment donné, je sais plus, pendant l'enfantement, on à un moment donné, on s'est demandé quand est-ce qu'on a essayé de faire un pari, mais essayer de deviner à quelle heure j'allais enfanter.
Okay.
Il était 8 heures à ce moment-là. Et moi, j'avais dit 10 heures.
Okay.
Mon mari avait dit minuit. Et finalement, c'était à 9 heures.
Ah ouais, joli.
Cette conversation-là, quoi. Donc, c'était drôle. Et donc là, elle arrive, elle fait, bon, bah attendez, je vais quand même regarder si c'est assez ouvert. Et donc, je suis, bah, d'accord, mais moi, je suis à 4 pattes, je ne me tourne pas. Hein. Elle le regarde par derrière. Et puis, j'étais à 10, donc elle m'a dit, bon, bah voilà, dès que vous voulez pousser, vous pouvez. Et en fait, donc, j'étais encore dans la salle nature et normalement, on doit être transféré dans une autre salle. Et donc, parce qu'ils n'avaient pas de matériel pour le bébé, etc. Donc, elle est partie. Et donc, ils ont ouvert la porte. Il y avait de la lumière dans le couloir et ça m'a vraiment... Ça m'a dérangée, en fait. Ils sont arrivés avec le matériel, etc. Parce que je sentais bien la tête du bébé. Et contrairement à la première fois, en fait, pendant le premier enfantement avec Alicia, il y avait la poussée et puis ça s'arrêtait, la tête remontait. Et ça a fait le yo-yo pendant une demi-heure, quoi. Alors que là, pendant la grossesse, donc j'avais fait beaucoup d'exercices que j'appelle la respiration de la yoni pour prendre conscience de mon périnée, etc. Et donc là, je chantais la poussée et puis... En fait, inconsciemment, mon périnée, entre guillemets, gardait la tête en place. Enfin, elle ne remontait pas, quoi. Et donc, en 3 poussées, finalement, mon bébé est sorti. Mais juste, enfin, ça aurait pu être en 2, finalement. Mais lorsqu'ils ont ouvert la porte, j'ai tout de suite senti, ça remonte, quoi. Ça m'a vraiment contracté, quoi. Le fait qu'il y ait deux autres personnes qui arrivent avec de la lumière dans le couloir. Donc, bon, ça va, je ne vais pas me plaindre, c'était quand même super. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai eu la première contraction de poussée, j'étais à quatre pattes et je me suis dit, ok, donc là c'est le vrai truc qui commence, quoi.
C'est drôle.
Parce qu'au début, c'était bon, je regarde, c'est bon depuis 2 heures. Et je me suis dit, ok, et là, c'est un peu la sensation, juste avant la grossesse, je faisais du sport assez intensif où j'allais vraiment chercher ma force intérieure, quoi. Et là, j'ai ressenti un peu ça, en fait, cette ok, j'y vais, quoi. Mmh. Et ouais, je crois que ça m'a soutenue, en fait, cette période de sport que j'avais fait avant la grossesse. Ça m'a, je pense que ça m'a soutenue dans cette zone-là où je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai la force physique, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et donc, finalement, mon bébé est sorti. Je l'ai pris sur moi et c'était extraordinaire, bien sûr. Normalement, j'avais décidé de partir directement parce que j'avais prévu d'accoucher à la maison. Puis finalement, une fois que j'avais mon bébé, après ils m'ont ramené dans la chambre. Je sais pas, en fait, je vais rester. je vais pas bouger, j'ai pas envie de faire de la route. Je suis partie le lendemain à midi avec mon bébé. Donc c'était vraiment un cheminement entre un enfantement dans la douleur et un enfantement dans le plaisir.
Ouais.
Et deux enfantements sont magnifiques et ont leur place, mais ça a été un cheminement de volonté et de direction que j'ai pris, en fait.
Ouais.
Par rapport à ce premier documentaire que j'ai vu, et j'ai fait « Ah, mais oui, mais c'est ça !»
Alors moi, je n'ai pas vu le documentaire, par contre, j'ai lu le livre « Naissance orgasmique » que j'ai trouvé vraiment, vraiment merveilleux. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée aussi, alors notamment pour mon dernier enfantement, ma troisième. Ça a été la naissance la plus intense de celle que j'ai pu vivre, moi, clairement. J'ai une petite fille, alors c'était le travail le plus long, et en plus, elle est arrivée par la face, donc c'est assez particulier.
Ok.
Mais je me souviens, c'est des 3 enfantements, c'est le seul où vraiment je me suis dit à un moment donné, bah, écoute, je vais me masturber pour voir. Et alors, en l'occurrence, ça ne l'a pas fait. J'étais pas bien comme ça. Mais en tout cas, je me rappelle vraiment un moment de me dire, attends, là, ce que je suis en train de traverser, ça peut être du plaisir, en effet, quoi. Tu vois, c'est quelque chose d'intense et du coup, je vais explorer ça. Je suis passée à autre chose. Hein. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un chemin qui est hyper intéressant, finalement. On en entend tellement peu parler.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pour l'instant, il y a vraiment cette... La première chose qui vient à l'esprit des femmes pour un enfantement, c'est douleur, en fait. Et je pense que vraiment ce conditionnement, on se rend pas compte de la lourdeur de nos conditionnements, du poids de nos conditionnements. Et c'est pour ça que il faut déjà une volonté, en fait, déjà de se libérer de nos conditionnements et de choisir une autre direction, en fait. Et puis après, il y avait vraiment aussi cette préparation au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau physique. Moi, par exemple, le fait de faire l'amour en allant explorer les zones du vagin qui sont tendues.
Mm-hmm.
Et donc, ça prend un peu d'effort, entre guillemets, parce qu'on va... C'est comme le yoga, en fait. Quand on va faire une posture de yoga, on va sentir, ok, bah, ça tire, hein, et puis des fois, il faut respirer plus profondément. Mais après, ça va permettre de relâcher les tensions et de sortir aussi de cette dualité plaisir-douleur. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à « Oh non, non, douleur, je veux pas, je veux que des choses qui sont satisfaisantes tout de suite, maintenant. » Et finalement, les deux ont leur place. Et justement, en allant avec le yoga ou avec cette technique où on va aller explorer les tensions, on va respirer. ça va permettre de relâcher les tensions parce que finalement, si on est la plus relaxée possible, c'est là où notre corps va pouvoir vraiment s'ouvrir au maximum. Ouais. Et ce syndrome dont parle Marie Mongan dans son livre Hypnonaissance, c'est peur, tension, douleur. Donc, si la femme a peur, ses muscles se contractent et donc elle a mal en fait, ouais, lors de l'enfant.
Complètement. Moi, il y a une chose qui m'avait beaucoup marquée, c'était dans le livre d'Ina Megaskin, où elle disait vraiment souffler des framboises. Alors, c'était une image qui nous avait beaucoup plu avec une amie, alors qu'on était enceinte en même temps. Cracher des framboises tout doucement. Et c'est vrai que mine de rien, bah, la bouche molle colle mou, quoi. Et mine de rien, c'est hyper important d'être relâché. On ne le vit pas du tout de la même manière.
Ouais, exact. Et c'est vrai que ça prend aussi un certain entraînement de se relaxer.
C'est ça.
En fait. Parce qu'on ne peut pas être relaxe-toi. Mais si, si, relaxe-toi. Mais je suis relaxée.
Ouais, ça prend du temps. Puis on n'a pas l'habitude. On est obligé de le faire en conscience dans un premier temps avant que ça devienne naturel parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a toujours connu.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça que dans les cours de yoga, par exemple, j'invite les femmes à le faire vraiment quotidiennement si elles peuvent, essayer de relaxer même au niveau de la prise de conscience du périnée et le relaxer lui aussi, en fait. Parce que sans s'en rendre compte, on a des tensions, des mâchoires, des épaules, du col, etc. Donc, tout un apprentissage aussi, un cheminement. C'est vraiment un cheminement de se relaxer, d'être la plus relaxe. Que je dis souvent aux mamans que j'accompagne, l'enfantement, c'est le jour où tu devrais être la plus relaxe du monde. Quoi. Vraiment, la plus...
Et l'ocytocine marche quand même drôlement bien pour mettre tout smooth. Ah, chouette. Ah, du coup, c'est hyper touchant d'entendre que vraiment tu t'es préparée en fait à te déconditionner et puis à pouvoir vivre cette expérience-là. Quoi. C'est beau. C'est vraiment chouette. Bon. Est-ce que tu aimerais peut-être... passer un petit message, qu'est-ce qui, toi, t'aurait fait du bien? Est-ce qu'il y a des mots qui... Est-ce que tu as été accompagnée ou est-ce que, du coup, c'est toute une démarche que tu as faite seule avec ton compagnon?
Seule, okay. Ouais. C'était plutôt... mon compagnon, non, pour la préparation à la naissance, il n'a pas vraiment été présent. En fait, en Russie, il n'y a pas de préparation à la naissance, déjà. Donc, pour ma première, je n'en avais pas. Donc, j'avais fait un peu de yoga toute seule. Et là, pour le deuxième, c'était vraiment une préparation que je me suis fait à ma sauce, en fait. J'en ai pas fait non plus. J'étais en France les 3 derniers mois de ma grossesse, mais j'ai pas fait de préparation à la naissance parce que j'avais déjà ce manuel que j'avais fait de naissance plaisir par rapport au yoga. Et j'ai vraiment fait ma propre préparation holistique.
Ouais.
Une préparation qui est vraiment dans le ressenti et dans la répétition, en fait, de ces exercices de relaxation, etc., pour tout simplement faire de nouvelles connexions au niveau neuronal, pour qu'ensuite, elles se fassent naturellement. Au début, c'est pas simple, parce que la connexion n'a pas été faite, il faut la créer. Et ensuite, plus on va faire cet exercice, plus la connexion va se creuser, en fait, et plus ça va être... facile. Donc ensuite, on a juste besoin de respirer et ça y est, je suis relaxe.
Ouais, complètement. Ça me fait penser par rapport aux enfants. Souvent, on dit, on favorise certaines connexions pour prendre conscience de ses émotions, par exemple, pour réussir à trouver des mots. Et au départ, ça va être des petits chemins. Et plus on va les emprunter, plus ça va devenir facile. C'est des automatismes, mais il faut du temps. Et du coup, au départ, comme tu dis, ça demande un travail conscient. Alors, moi, j'aime pas forcément le mot travail, mais en tout cas, ça demande vraiment un don de soi dans cette direction, quoi.
Oui, voilà. C'est aussi là, quand tu parles de don de soi, ça me fait penser aussi à l'investissement, en fait.
Ouais, c'est ça.
Pour notre grossesse, pour notre enfantement, c'était vraiment. Il y a une certaine discipline aussi, finalement. Le fait de se dire, ok, là, je vais faire mes... Je me réveille le matin, je fais mes exercices, entre guillemets, naissance plaisir, en fait. Parce que je sais que si je le fais, ça m'amène dans la direction de cette naissance plaisir.
Ouais.
Et c'était ça, en fait, qui était, qui était important. Puis aussi, il y avait au niveau du conditionnement, j'ai vraiment privilégié que les témoignages positifs de naissance.
D'accord.
Donc j'ai vraiment, j'ai essayé de mettre de côté tous les témoignages négatifs, les choses comme ça. C'est pas que je faisais abstraction. Je sais que ça existe et le truc, c'est qu'on nous a rabâché dans les films et les machins. Le côté négatif, on l'a. Hein. L'image, on l'a parfaitement nette. Mais donc, j'en avais pas besoin. Maintenant, j'avais envie de créer une autre image, en fait, dans mon cerveau.
Ouais, je comprends.
Par exemple, au petit-déj, je regardais des vidéos d'hypnonaissance.
D'accord.
Des femmes sur leur ballon et qui sont... qui enfantent comme ça, quoi. Et donc, ça m'a... Pareil, ça a fait de nouvelles connexions.
Complètement. Moi, c'est une question que je me pose pas mal, tu vois, avec la création de ce podcast. C'était aussi l'idée, voilà, de pouvoir donner de la visibilité à tout ce qui est les naissances naturelles, les naissances à la maison, les naissances libres et autonomes, vraiment. Parce que moi, c'est mon vécu et du coup, c'est ce qui me parle. Et en même temps, voilà, il y a plein d'expériences qui sont différentes et je suis contente de recueillir plein de témoignages qui sont différents. Et en même temps, j'ai envie de laisser une belle part à ces témoignages-là parce que c'est pas ceux qui sont médiatisés la plupart du temps. C'est pas ceux dont on entend parler et pourtant, ça me semble tellement important qu'ils fassent partie du paysage aussi des naissances, quoi. Parce que c'est possible. Et du coup... Voilà, la naissance plaisir, c'est possible, quoi. C'est pas un mythe qui sort de je ne sais où pour les autres, non, c'est ici possible. Ouais.
J'ai écrit un article d'ailleurs qui s'appelle Naissance plaisir, mythe ou réalité.
Ok.
Sur mon site où justement, et là c'est vraiment avec des faits, justement je parle d'Ina Megaskin qui a fait une étude justement et qui montre, alors je me rappelle plus les chiffres exactement, mais il y avait énormément de femmes finalement qui considéraient leur naissance comme naissance plaisir, parce que c'était les femmes qu'elle a accompagnées, mais qui naissaient à la maison et qui étaient ouvertes aussi à ce genre d'idées, en fait.
Ouais.
Si des fois j'ai eu la première fois que j'ai parlé à ma meilleure amie de naissance plaisir, quand j'étais enceinte, elle a cru que j'étais barrée.
Ouais.
Elle a cru que j'étais perdue, en fait, parce qu'elle m'a dit non, mais enfin, naissance plaisir, avoir du plaisir avec son enfant, moi j'ai pas du tout pensé à ce côté-là, mais donc il y a aussi ça, en fait, c'est que le plaisir, parfois, il est il faut déjà être à l'aise avec la notion de plaisir dans son corps, dans sa vision des choses, et elle, oui, elle pour elle, c'était inimaginable, en fait, ce genre de choses, quoi. Alors que finalement, c'est juste ça, voilà, l'enfant est rentré dans le plaisir, pourquoi pas qu'il sorte dans le plaisir, en fait, c'est...
Mais je pense qu'il y a vraiment aussi toute une espèce de pudeur, tu vois, par rapport au corps de la femme, par rapport au plaisir féminin, par rapport à la sexualisation des naissances, tu vois, où finalement, on a du mal à le voir comme un acte sexuel, alors que c'est le cas.
Bah oui. Exact.
Yes.
Ça, c'est une des premières choses aussi, comprendre que l'acte d'enfanter est un acte sexuel. Ouais. C'est la base. Mm-hmm. Déjà, on prend ça, ensuite on peut avancer un peu plus vers cette naissance plaisir, mais en plus c'est scientifiquement, au niveau des hormones, au niveau de ce qui se passe, au niveau du corps,
mais complètement
très ressemblant, au niveau de la physiologie aussi, du besoin d'intimité, de chaleur, on a exactement ces mêmes besoins lorsqu'on fait l'amour ou lorsqu'on enfante.
Ouais.
C'est vrai, le parallèle est très 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 fort, quoi.
Du coup, moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce que autour de toi, tu as d'autres femmes qui ont vécu des naissances plaisir également?
Alors, j'en connais déjà deux en Bretagne, près de chez moi.
Ouais.
C'est des amis qui sont aussi pas mal dans cette sphère. C'est une amie qui est professeure de tantra, une autre qui fait du yoga et... elles sont déjà ouvertes aussi aux techniques énergétiques, en fait.
Okay.
J'en ai rencontré d'autres aussi via Internet. Une autre à Rennes, en fait. Et c'est vrai que toutes ces femmes, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont sur un chemin de développement personnel par l'acceptation de son corps, l'amour de son corps, par aussi la pratique des œufs d'Yoni, peut-être... Donc elles sont vraiment dans cette mouvance-là, en fait, ouais. En tout cas, celles que j'ai rencontrées. Après, je sais qu'il y en a aussi que ça arrive par hasard.
C'est ça.
Parler. Par exemple, dans la ville où j'ai enfanté de mon premier enfant, il y a une femme qui avait enfanté dans le plaisir. Après, il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas.
Parce que
on entend beaucoup de femmes qui enfantent, alors s'il y en a une qui déboule, ah bah ouais, moi j'ai accouché dans le plaisir, elles ont peur de mal se faire voir, en fait, d'être perçues comme... d'être mal perçue,
ouais,
en fait.
D'être un peu folle, on les croit pas trop. Je crois que c'est sur la BD de la naissance de Lucie Gomez où elle parle de ça, tu as l'impression que la femme qui dit ça, c'est tellement étrange que ça ne peut pas être possible, quoi. Mais moi, justement, j'avais entendu un témoignage que j'avais trouvé assez merveilleux. C'était une femme qui enfantait pour la première fois, qui ne s'était pas du tout préparée et qui avait été surprise parce que personne ne lui avait dit que c'était possible. Et du coup, elle s'est demandé, mais à quel moment, enfin... Tout le long, elle se disait, bon, ça va bientôt démarrer, mais là, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est trop bon. Et qui vraiment s'était retrouvée avec son enfant en se disant, mais c'était waouh. Comme quoi, ouais. Bon, super. Est-ce que tu as envie de passer un dernier petit message, un petit mot à dire?
Tout simplement qu'on crée notre réalité. Donc, et qu'en tant que femme, on est puissante, et donc vraiment de se connecter à notre propre puissance, ça c'est important, à nos propres envies, à nos propres besoins, et s'écouter, en fait, c'est très important pour la femme qui enfante, ou la femme en général, hein, mais la femme enceinte aussi, de s'écouter vraiment, d'écouter la direction dans laquelle elle veut aller, d'écouter de quelle pratique elle veut aller explorer pour se découvrir elle et pour élever, révéler son potentiel, en fait. Vraiment, écoutez-vous, femme, écoutez-vous. Ouais. Écoutez-vous et soyez confiante en vous-même.
Ça me fait penser à la notion de vraiment d'investissement, comme tu disais, c'est s'investir dans le chemin qu'on veut voir. Voilà, quoi.
Oui. Mmh. Yes. Et aussi, voilà, un message très important aussi. Concernant le plaisir, par exemple, je reviens juste un tout petit peu, c'est que parfois le plaisir est considéré comme quelque chose de mal.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où t'es pas censé prendre du plaisir, voilà quoi.
Oui, voilà, donc au contraire, en fait, aller explorer son plaisir. Si une femme a envie d'aller vers la naissance plaisir, c'est important aussi qu'elle remette le plaisir dans sa vie. Si on n'a déjà pas de plaisir en tant que femme dans notre vie, ça va être plus compliqué d'avoir une naissance plaisir.
Bien sûr.
Donc, pour ça, c'est inviter le plaisir en soi. Donc, ça peut être le plaisir du toucher, au niveau sexuel, la sensualité, bien sûr, mais ça peut être aussi tout autre plaisir. Et vraiment, se poser la question, est-ce que le plaisir est une priorité dans ma vie, quoi. Mmh. Et le cultiver, en fait. Le cultiver, devenir orgasmique,
ouais,
aussi. Ouais. Là, on peut aussi, parce que je pense sincèrement qu'on est des êtres orgasmiques par nature. Manger une fraise en toute conscience peut devenir totalement orgasmique. Écouter une musique superbe, ça peut aussi devenir un orgasme de l'oreille, en fait.
Ouais.
Vraiment essayer d'inviter et de laisser, en fait, ces vagues, parce qu'un orgasme, finalement, c'est quoi? Des vagues, en fait, énergétiques,
ouais.
D'accord, on laisse, donc ça veut dire qu'il faut être libéré de tension, parce que si on a des tensions, bah forcément l'énergie est bloquée, donc vraiment libéré de tension et aller explorer ce désir, ce plaisir dans les mouvements, dans notre vie au quotidien, quoi, et devenir les êtres orgasmiques que nous sommes.
Ah, c'est chouette. Ouais, c'est un très beau mot de la fin. Moi, je rebondis quand même parce que ça me fait penser au fait que quoi qu'il arrive, toute personne, pour moi, partout sur Terre, c'est le plaisir, c'est quelque chose d'hyper important à cultiver, mais dans tous les domaines de sa vie, en tant qu'être humain en général, en tant que femme enceinte, c'est essentiel, mais toutes les femmes, même celles qui ne se dirigent pas vers une naissance orgasmique, ou en tout cas que ce n'est pas quelque chose qu'elles recherchent, c'est tellement important de savoir se faire plaisir, de laisser bourgeonner l'ocytocine et d'être vraiment dans une démarche de prendre soin de soi. et de savoir ce qui nous fait du bien et de se l'autoriser, c'est voilà.
C'est vrai.
Tout à fait, ouais.
Oui, dire oui au plaisir, en fait, déjà s'ouvrir tout simplement. Ah, quoi. Ouais. C'est un cheminement et après la naissance, ça change après, en fait. Ça... Aussi, ça ne veut pas dire que j'ai eu une naissance orgasmique, que je suis toujours orgasmique. Non. Loin de là, en fait, même après les naissances, on a des zones où c'est le calme plat, et même encore maintenant, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose à se reconnecter si on est trop dans la tête, par exemple, si on allait se reconnecter au corps, revenir, en fait. Ok, c'est bon, okay. Je suis là.
C'est clair.
Merci en tout cas de
Merci
m'avoir
beaucoup.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez contribuer au podcast et participer financièrement via le compte Tipeee Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. J'ai même prévu de jolies contreparties à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.